question posée. Est-ce qu'il y aurait éventuellement, avant qu'on aborde les questions écrites ici, quelqu'un qui voudrait poser une question en direct? Ça n'a pas l'air d'être... Bien. C'était au cas où, voilà, parce qu'ici il y a quelques questions qui sont intéressantes, mais enfin, ça peut être aussi intéressant d'avoir d'autres questions.
Oui, pardon.
Oui. Ah pardon, excusez-moi.
La dimension spirituelle,
oui.
Est-ce que c'est une dimension que vous aborderez demain ou est-ce que c'est une question qu'il faut qu'on pose dès aujourd'hui?
On peut en parler demain, ça oui. Maintenant, par rapport à ce que je vous ai... Ici, il y a une question qui va un peu dans le... Attendez, parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a une question qui ouvre ce champ-là. Ici, j'ai... Dieu a-t-il créé l'homme avec un amour égoïste? Au regard de votre analyse, donc le rapport à Dieu. En tant que philosophe, où placez-vous l'amour chrétien? Alors, attendez, il y avait une autre question, me semble-t-il. Je ne vois pas, non, je n'ai que celle-ci. Donc, c'est vrai que, voilà, par rapport à ce que je vous ai raconté ici, et le lien avec donc la spiritualité au sens large, ou bien la spiritualité chrétienne, ben c'est vrai qu'il y a une étape de plus à faire, évidemment. Mais vous avez déjà une direction. C'est-à-dire que, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Ce qu'on évacue ici, c'est une approche qui a existé en philosophie pour essayer de parler de l'expérience religieuse, qui était, vous avez sans doute vu ça quand vous avez eu des cours de philosophie, puisque vous avez la chance d'avoir un bac en plus en philo, enfin, vous avez des cours de philo, quoi, hein, donc nous en Belgique on n'a pas ça, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Descartes a mis en place pour essayer de démontrer l'existence de Dieu, hein, par la preuve qu'on appelle la preuve du fini. Donc par rapport à ce que je vous ai raconté ici concrètement, hein, ça veut, enfin, un peu plus concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est vrai que comme nous sommes quelqu'un qui est fini, qui fait l'expérience de sa finitude, ben, l'argument c'était de dire, pour pouvoir se vivre fini et prendre conscience de cette finitude, il faut bien qu'on ait en nous l'idée de perfection, au regard de laquelle nous ne sommes que ce que nous sommes. Hein? Et donc si vous jouez avec ce que je vous ai raconté ici, on dirait, mais c'est parce que nous avons la notion de toute puissance en nous, que comme on voit qu'on n'y arrive pas, alors on prend conscience de sa finitude. Hein? Donc ce serait, puisque nous sommes finis, Dieu serait du côté de la toute-puissance, quoi, si vous voulez, pour faire simple, hein, par rapport aux deux colonnes que je vous ai... Ben, évidemment, vous vous rendez compte qu'avec ce que je vous ai raconté ici, on va barrer cette façon de présenter les choses. Ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Donc la notion d'infini, ou la notion de toute-puissance, ici, hein, pour reprendre le vocabulaire utilisé ici, ben, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir l'impression de le vivre, mais ce n'est que du désir. Ça veut dire quoi? Ben, on désire ce qui n'est pas, ce n'est que de l'imaginaire, si vous voulez. Personne n'est tout-puissant. Donc l'expérience que nous faisons de la toute-puissance correspond en fait, alors on peut expliquer pourquoi par ailleurs, enfin peu importe, mais ça n'est pas l'expérience de l'absolu, du divin ou que sais-je d'autre en nous, évidemment. Donc la toute-puissance, c'est de l'imaginaire. La réalité que nous sommes, c'est effectivement la finitude. Alors en fait, si vous voulez vous ouvrir maintenant, ce que je n'ai pas fait ici, si vous voulez vous ouvrir maintenant à la dimension spirituelle, ce qu'il faut faire, c'est creuser l'expérience de la finitude. Mais là, il faut d'autres éléments, évidemment. Donc là, je suis un peu embêté, parce que nous, on est parti pour jusque... On va souper... Enfin, on va dîner ensemble. Hein. Oui, vous dînez le soir, hein, nous, voilà. Donc on va dîner ensemble, et on va passer la nuit ensemble. Hein, donc, mais c'est vrai que là, il y a toute une série de choses, mais c'est de ce côté-là qu'il faut... Donc on vous dira, si vous voulez, pour le dire encore autrement, il faut d'abord pouvoir se libérer des fausses idoles, où on pourrait espérer que, et puis c'est traverser l'expérience inconfortable de la finitude qui nous renvoie alors à quelque chose d'absolu. Quand vous faites ça, est-ce que vous connaissez, parce qu'on peut peut-être se référer à des auteurs que vous connaissez peut-être, je n'en sais rien, est-ce que vous connaissez Michel Henry, qui est un penseur français qui est décédé en 2002, un penseur chrétien et qui... a proposé une lecture du christianisme qui est tout à fait étonnante, enfin, qui est peu habituelle, mais qui est d'une profondeur incroyable et qui, voilà, et qui permet d'ouvrir le champ de la spiritualité. Alors en gros, si vous voulez, voilà comment il présente les choses, et ça c'est un approfondissement de l'expérience de la finitude. Il part du principe que, enfin du principe, il part des évangiles notamment, où il est dit que le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des vivants. C'est pas un Dieu intellectuel, le Dieu des philosophes. C'est pas un Dieu, je ne sais pas quoi, enfin, c'est le Dieu des vivants. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous cherchez Dieu, c'est dans la vie qu'il faut chercher. Donc pas dans le ciel, pas dans, une fois encore, dans les idées théoriques, que sais-je. C'est même pire que ça. Ça pourrait être vu comme provoquant. De la part de Michel Henry, ça ne l'est pas du tout. C'est un chrétien convaincu. L'idée, c'est pas de provoquer. C'est même pas dans les textes sacrés que vous trouverez. Ce ne sont que des textes. Et on peut en douter, en veux-tu, en voilà. Hein. Donc vous connaissez toutes les critiques, effectivement, de l'herméneutique et tout ça, hein, de la lecture critique des évangiles et de la Bible. Donc ce n'est même pas là qu'on va le trouver. C'est dans la vie. Alors la vie, elle est où? C'est quoi la vie? Ben, on est bien d'accord pour dire qu'on est tous vivants. Je suppose que oui. Donc ça veut dire que ce que vous, chacun d'entre nous, nous connaissons de la vie, c'est quoi, c'est où? Ben, c'est même pas dans votre voisin, souvenez-vous tout le débat qu'on a eu tout à l'heure, hein, mais la seule expérience que vous faites de la vie vivante, de la vraie vie, c'est en vous. Il n'y a que là que vous savez ce que c'est que la vie. Quand vous regardez les autres, ben, ce que vous voyez, c'est des corps, c'est de la chair, c'est tout ce que vous voulez, de la biologie, si vous voulez, c'est des choses déjà mortes en quelque façon, donc lui dira c'est des cadavres qu'on voit, quoi. Bon, il exagère en disant ça, mais enfin, ce qu'il veut dire, c'est déjà plus que de la matière que l'on voit. Là où on fait l'expérience de la vie en tant que vie vivante, c'est en tant qu'on l'éprouve, en tant qu'on la sent en nous, en tant que nous sommes vivants, quoi, tout simplement. D'accord pour ceci. Donc s'il est vrai que quelque chose comme un Dieu existe, et ce serait le message chrétien, c'est uniquement dans ce qui existe pour du vrai qu'on le trouve, pas dans des théories ou des hallucinations, que sais-je. Et là où les choses existent pour du vrai, là où vous vivez pour du vrai, c'est dans votre vie, là où vous vous éprouvez pour l'instant, là où vous vous ressentez pour l'instant. Ça, c'est toujours vrai. Hein? Je suis la voie, la vérité, la vie. Eh bien, effectivement, donc, Dieu, c'est la vie d'abord, et la vie telle que nous l'expérimentons. Alors maintenant, vous allez me dire... Ben, oui, mais enfin, moi, je ne vois pas de Dieu là-dedans. Je veux bien reconnaître que je me ressens, que je me vis, que j'éprouve la vie en moi, mais où est Dieu dans cette affaire-là? Eh bien, ce qu'il va faire, comme il va proposer des descriptions. Puis après, il s'appuie sur les évangiles pour vous le montrer, enfin, c'est sidérant. Donc, il faut lire un livre, hein, si jamais vous aimez bien lire, qui s'appelle « C'est moi la vérité ». Alors, évidemment, c'est un livre un peu bizarre. Enfin, la couverture est bizarre, hein, parce que quand vous regardez, c'est Michel Henry. Et le titre, c'est moi la vérité. Donc, évidemment, on le lui a reproché en disant, ah, bon, t'exagères un peu, là quand même. Mais en fait, bon, c'est moi la vérité, évidemment, c'est une parole des évangiles, donc c'est le Christ qui parle, quoi, bien sûr. Hein. Donc, enfin bon, la mise en page était un peu audacieuse quand même. Enfin bon, peu importe. Donc, toujours est-il que la première chose qu'il fait, c'est de dire, donc, puisque c'est bien le Dieu des vivants dont on parle, c'est dans la vie qu'il faut chercher, et où est la vie? Le seul lieu où vous faites l'expérience de ce qu'est la vie, c'est en vous. Là, vous savez ce que c'est qu'être vivant, effectivement. Dès que vous regardez au dehors, c'est fini. Vous voyez des objets. Mais la vie ressentie. Bon. Maintenant, comment est-ce qu'il va de là s'ouvrir à une expérience du divin, ce Dieu qui serait le Dieu du christianisme? Eh bien, il va dire, si vous décrivez maintenant l'expérience que vous faites de cette vie en vous, de cette épreuve que vous faites de vous-même, eh bien, c'est pas compliqué, hein, une fois qu'on suit le fil, c'est une évidence. Il va dire, cette expérience que vous faites de la vie en vous, c'est quoi? C'est l'expérience d'une vie, ben, vous êtes habitué à ça, hein, c'est l'expérience d'une vie pour laquelle vous n'y êtes pour rien. Ça vit en vous, que vous le vouliez ou pas. Votre volonté n'y est pour rien, si vous voulez. Ce qui veut dire quoi? Si on doit chercher une expérience, donc, petit nota bene, Michel Henry est un phénoménologue, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la phénoménologie, donc c'est un courant philosophique qui dit... S'il vous plaît.
C'est
c'est Husserl.
Voilà, le père de la phénoménologie telle qu'on la connaît, c'est Husserl, puis vous avez Heidegger, puis vous avez enfin, toute une série d'auteurs, et Michel Henry, un des derniers. Vous avez Marion chez vous, qui est toujours vivant à l'Académie française, là, hein, qui est aussi un phénoménologue. Enfin bon, et donc l'idée des phénoménologues, c'est celle-ci, donc ça il faut que je vous l'explique deux minutes, enfin une minute, c'est, vous pouvez me parler de ce que vous voulez, mais il faut qu'on puisse le voir. Si ce dont vous me parlez, on ne peut pas le voir, mais le voir en général, donc en faire l'expérience d'une manière ou d'une autre, alors écoutez, ce n'est que de l'imaginaire, je suis désolé. Ou bien vous me demandez de croire sans rien, enfin, sur base de rien du tout, quoi. Donc s'il est vrai que Dieu s'est révélé, que le Christ, enfin, qu'il y a une manifestation, qu'il y a une expérience, eh bien, moi qui viens 2000 ans plus tard, je dois pouvoir en faire l'expérience. Ou alors, votre truc, c'est un machin pour les enfants, c'est comme le Père Noël. Donc il est radical, hein, donc il n'y a pas de négociation possible avec lui sur ces questions-là. Et donc il cherche ça. Donc la vie, je m'éprouve, ça j'en fais l'expérience, je ne peux pas en douter, tant que je suis vivant en tout cas. Et bien dans cette expérience donc, vous faites l'expérience de quoi? Si vous essayez de le décrire, vous faites l'expérience donc du fait que vous êtes un vivant qui ne cesse de recevoir la vie sans y être pour rien là-dedans. D'accord jusque-là? Et bien, ça c'est l'expérience de la finitude. Si vous prolongez tout ce que je vous ai raconté, je fais d'abord l'expérience que je ne me suis pas apporté moi-même dans la vie. Et c'est ça, l'expérience radicale d'être quelqu'un qui est fini, par définition. Bon. Maintenant, faire l'expérience d'une vie qui ne cesse de m'être donnée en permanence, eh bien, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il va dire, c'est précisément ça, faire l'expérience pour moi qui suis quelqu'un qui la reçoit, qui reçoit cette vie, c'est faire l'expérience de cette vie qui me donne à moi-même, c'est-à-dire d'une vie qui a le pouvoir... Donc, je ne sais pas si je vais trop vite, hein, parce qu'il faut s'habituer à cette façon de présenter les choses. Donc on fait l'expérience d'une vie qui nous donne à nous-mêmes, qui a donc ce pouvoir de nous créer en permanence, si vous voulez, pour le dire plus simplement. Eh bien, l'expérience de l'absolu, c'est là qu'il est. L'absolu est en nous. En tant que nous vivons, nous pouvons l'expérimenter, tout le monde peut le voir, enfin, tout le monde peut le sentir, donc, parce que c'est une épreuve. Donc nous faisons l'expérience d'une vie qui ne cesse de nous donner à nous-mêmes. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, par excès, par don gratuit, si vous voulez. Eh bien donc, là où vous cherchez Dieu, ce n'est pas dans les textes, qui ne sont que des constructions, ce n'est pas dans le ciel, ce n'est pas dans les idées des philosophes. Michel Henry dira, avec son vocabulaire à lui, « Le plus simple des mortels peut des gens faire l'expérience sans être un érudit, simplement parce qu'il vit et qu'il ne cesse de recevoir ses vies. » Dieu est au plus intime de nous-mêmes, dirait saint Augustin, en tant que, ben voilà, il ne cesse de... Voilà, ben c'est cette idée-là. Et qu'est-ce que le Christ ? Ben le... Enfin oui, là ça devient compliqué, si je... parce que c'est un peu jargonnant, évidemment, chez Michel Henry, quand on n'est pas habitué. Ben enfin, le Christ, c'est cette vie qui nous est donnée, si vous voulez, et qui fait que nous existons. Donc nous sommes tous dans le Christ, en tant que le Christ, c'est la vie qui, en se donnant, gratuitement par amour, le Christ, donc le Père donne le Fils, qui permet du coup à chaque vivant que nous sommes de pouvoir exister à son tour. Donc nous sommes vivants dans la vie qui est donnée, donc nous sommes vivants dans le Christ. Voilà, c'est ça l'idée. Vous voyez ? Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'on... Enfin, c'est ça l'idée, c'est ça l'expérience spirituelle qu'on peut faire. Donc c'est intéressant avec Michel, enfin moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est un défaut peut-être de l'Occident, nous nous mentalisons tout. On intellectualise, et je le dis d'autant plus que je suis philosophe, donc le défaut je le connais. Hein, et lui il vous dit, mais avant, on a besoin de penser, c'est important de penser, hein, faut pas dire n'importe quoi non plus. Mais c'est d'abord le cœur, ce que Pascal nous a appris, remarquez bien. Hein. Donc il n'est pas le premier à le dire. Le cœur c'est autre chose. C'est pas du mental où je fais toute une histoire et je fais une théorie pour dire que Dieu ceci, pour le démontrer. C'est d'abord ce qu'on vit. Et alors pourquoi est-ce qu'il peut dire après que donc c'est pas dans les textes sacrés qu'on trouve Dieu ? Mais pour la raison suivante, et je trouve que c'est assez bien vu de sa part, il dira « Les textes sacrés parlent parce que la vie a déjà parlé en vous. » C'est parce que vous faites l'expérience de l'absolu en vous que du coup de le lire dans des textes, le texte devient parlant. Mais imaginez quelqu'un qui n'aurait aucune expérience, en aucune façon, de quelque chose comme le divin en lui, l'absolu en lui, enfin appelez-le comme vous voulez. Ben, il va lire ce texte-là comme il a lu par la suite les trois petits cochons, ou je ne sais pas quoi, enfin. Vous comprenez ? Ben, oui, si ça ne résonne pas, c'est de l'imaginaire qu'on raconte des histoires, pourquoi pas. Mais pourquoi ces textes-là ? Non, ça ne marche pas, ce n'est pas des contes. Même si pourtant, ça a été écrit par des humains. Mais il y a quelque chose qui résiste. C'est parce que, dira-t-on, Dieu a toujours parlé déjà en notre cœur, de telle, enfin, donc c'est cette vie que nous éprouvons toujours, de telle sorte que du coup, quand je le lis, effectivement, j'y reconnais la parole de Dieu. Mais sans cette expérience d'abord, Dieu est du côté des vivants, il n'est pas du côté des textes écrits. Les textes écrits, c'est déjà des textes morts, évidemment. Hein. Donc si nous pouvons rendre vivants ces textes-là, c'est parce que nous avons la vie, d'abord. Voyez. Et donc ce qui est intéressant, c'est plus vous creusez donc la question de la finitude, donc vous allez tomber dans... Ben, c'est vrai que l'expérience radicale de la finitude, c'est pas tout ce que je vous ai raconté, ça c'est au niveau humain. Mais là, l'expérience la plus radicale, c'est que je ne suis pas le maître de ma vie. Je l'ai reçu. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une idée théorique? Non, c'est ce que j'éprouve. Alors décrivez-le. Et plus vous allez le décrire, plus vous allez creuser, plus vous allez rentrer dans toutes ces histoires-là, enfin. Et puis après, donc je vous invite à lire vraiment « C'est moi la vérité », parce qu'après, donc, c'est pas simplement donc, de le dire ainsi, c'est déjà trop philosophique, hein. Donc c'est pas simplement de le dire, après il va trouver dans les évangiles la preuve de ce qu'il dit. Quand vous lisez les évangiles, c'est ça que vous lisez. Et ça, c'est troublant, hein. Il faut rendre au monde ce qui appartient au monde, il faut rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, ça veut dire il y a les choses extérieures, matérielles, il faut, voilà, et puis à Dieu, c'est la vie en nous. Et hop, voilà, vous êtes parti dans plein de choses. Enfin bon, c'est interpellant, enfin. Mais je trouve que ça, c'est intéressant, parce que vous sortez donc des théories, des dogmes, ou des textes tout faits, si vous voulez, qu'il faudrait croire comme ça sans raison, pour d'abord ramener à une expérience, à ce que chacun peut vivre, et sans qu'on ait besoin de... d'un coup de baguette magique, enfin. Hein, donc Dieu est toujours déjà présent parmi nous, quoi, si vous voulez. Et après, ben, il faut le célébrer, quoi, c'est tout, mais c'est déjà donné. Il ne faut pas le produire par je ne sais quel catéchisme qu'on devrait intégrer, quoi, en quelque façon. Et du coup, ça devient une bonne nouvelle. Parce que là, ça libère, pour le coup. Hein, et ça, c'est... Enfin, voilà, donc, si on devait creuser, ça irait dans ce sens-là. Mais maintenant, demain, on peut, si vous voulez, moi, je veux bien, hein, donc je prépare ça ce soir... Et alors, je peux essayer de vous faire une présentation de ce côté-là, parce que ça ouvre une toute autre. On est moins habitué à ce genre d'approche, mais ça ouvre en tout cas pas mal la réflexion, je trouve, et l'expérience qu'on peut faire soi-même, évidemment. Voilà, mais je ne sais pas si ça répond à ce que vous aviez dans votre question. Hein.
C'est tout à fait. Et je vous dis aussi, parce que dans nos partages, on a partagé sur les questions, ce que vous avez dit. Mais il y a forcément cette dimension en tant que croyant qui est intervenue dès qu'on parlait du bonheur.
Voilà, oui. Et alors maintenant, il y a une deuxième dimension, maintenant qu'on retrouve, mais qui n'est pas propre au christianisme comme tel, mais qui est propre à toutes les spiritualités. Par rapport à ce que je vous ai raconté ici, donc en prenant comme prétexte la passion, l'amour, hein, bon, hein, vous avez vu ce qu'on a raconté tout à l'heure, c'est que, donc, mais ça on en parlera demain un peu plus longtemps, c'est qu'apparemment donc nous sommes déchirés entre deux pôles, donc, hein, donc ce pôle des désirs qui relève plutôt de l'imaginaire, et puis donc cette réalité. Ben, qu'est-ce que les voies du salut que l'on présente dans à peu près toutes les religions, toutes les sagesses qui existent, ben, c'est toujours plus ou moins la même logique dans laquelle vous êtes, ou comment peut-on se sauver, c'est quoi se sauver, c'est quoi la notion de salut? Mais c'est d'abord de se détourner, c'est de se libérer de ce qui n'est pas. Et si possible, de pouvoir alors, et c'est là une espèce de résurrection, si on veut le dire ainsi, essayer de pouvoir, du coup, ben, renaître à ce que l'on est. Mais quand vous le dites ainsi, mourir à ce que l'on n'est pas, pour renaître à ce que l'on est, à la vraie vie, ben, c'est ce qu'on vous dira dans un langage donc de sagesse ou un langage religieux, ben, tout ce que j'ai essayé de commencer à amener tout à l'heure, ben vous voyez que ça prépare ça, évidemment. Mais d'abord, c'est intéressant. Enfin, moi, il me semblait que c'était intéressant, en tout cas, d'abord de dire, ben, quand je prends mon expérience, hein, par exemple, amoureuse, hein, ou de vie de couple, ou que sais-je, et que j'essaye de voir un peu, mais qu'est-ce que ça dit de moi, ben, la première chose d'abord à voir, c'est il y a les deux dimensions. Effectivement, il y a des choses qui font rêver, on a l'impression de les vivre, puis il y a la réalité qui nous rattrape. Et puis maintenant, donc on en était resté là, c'est l'attention de les deux. Ben, maintenant, vous savez déjà un peu ce qu'on va faire demain, évidemment. Hein. Ben forcément, ben oui, mais c'est en présentant ce que je vous ai présenté, forcément, hein, donc je comprends que vous posez des questions dans ce sens-là, mais donc c'est de voir mais comment on peut renaître, effectivement, à supposer qu'il faille renaître. Hein, Michel Henry lui dira, pour revenir à Michel Henry, parce qu'il utilise ce vocabulaire forcément chrétien de la renaissance, qu'est-ce que renaître ? Ben, pour dire les choses très simplement ici, parce qu'enfin, il faudrait rentrer dans le détail, mais enfin, peu importe, par rapport au peu que je vous ai dit. Donc nous sommes des êtres humains qui, nous, en Occident, mentalisons tout. On intellectualise tout, on objective tout, on veut des preuves objectives, scientifiques. Enfin, il faut que tout existe sous la forme d'un objet. Eh bien, quand on comprend que tout cela, ce ne sont que des fabrications humaines. Nos savoirs, ce sont des constructions, si vous voulez. Ce sont des théories, ça change au fil du temps, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. On vous dira, pour être un peu plus précis, on vous dira que ce ne sont que des interprétations qui nous aident bien à vivre, des interprétations opératoires, hein, dira-t-on, mais ce ne sont jamais que des interprétations. Vous cherchez la vérité là-dedans, dans nos théories, vous vous égarez, parce que vous êtes dans l'interprétation. À quoi doit-on mourir, hein? De quoi faut-il se détourner? D'abord, il faut arrêter, nous vivons donc à l'envers, il faut arrêter de chercher la vérité là où elle n'est pas, dans toutes nos théories savantes. Même si elles nous aident bien à vivre par ailleurs, donc il ne faut pas les rejeter non plus, parce qu'en attendant, on en a besoin quand même pour vivre, mais ce sont des théories, enfin. Et quand on se détourne effectivement de cela, on peut enfin renaître à ce que pourtant nous n'avons jamais cessé d'être, mais qu'on oublie, qu'on ne pense plus, qu'on ne voit plus, et qui est donc le fait que nous sommes un vivant. Et qu'en tant que nous sommes un vivant, nous nous sentons, et en tant que nous nous sentons, nous sommes une personne à part entière, un sujet, dira-t-on en philosophie. Notre culture à nous occidentale, c'est une culture qui déprécie le sujet que nous sommes, le sujet vivant, sous couvert que ça, c'est jamais que du délire personnel, c'est jamais que vous, individuellement, on s'en fout de ça, et qui met au-dessus du vivant les théories universelles, le savoir universel, l'objectivité, ce genre de choses, qui ne sont que des constructions humaines. C'est ça qui est terrible. Vous comprenez, on a inversé le sens de la vie, on prend pour vrai ce qui n'est qu'une interprétation, et on relativise ce qui est absolument vrai, c'est-à-dire le fait que vous êtes vivant. Et ça, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est que votre, ça, c'est votre point de vue, dira-t-on. Et votre point de vue, ça ne compte pas. Alors que c'est pourtant ça que vous vivez pour du vrai. Et donc, on va dire, renaissance, c'est de remettre les pendules à l'heure. C'est pas de supprimer nos théories quand même, faut pas exagérer. Mais c'est d'abord de prendre pour vérité ce qu'on vit et qu'on le vit tellement que ça ne peut être que vrai. Parce que c'est nous, enfin. Et puis après, d'utiliser nos théories dont on a besoin, mais en sachant que ce ne sont que des théories. Donc de remettre les pendules à l'heure, voyons, on inverse, c'est pas les théories qui sont vraies, et puis mon point de vue à moi, c'est jamais qu'un point de vue particulier, c'est d'inverser les choses, mon point de vue, c'est la réalité, pour moi, en tant que vivant. Donc j'ai pas à l'imposer aux autres non plus, mais c'est ce que je vis, et toutes les théories que je vais fabriquer là-dessus, c'est de les utiliser si ça aide, mais en ayant conscience que ce ne sont pourtant que des théories. Évidemment. Donc, oui, voilà. Et ça, c'est un rapport qui est sain par rapport à la vie. Alors, oui, je vous en prie, c'est partir du cœur pour aller vers la tête, si vous voulez. Mais pas partir de la tête pour essayer de retrouver le cœur, pour le dire autrement. Oui, je vous en prie.
Ça, c'est la pensée de Nietzsche.
Michel Henry a commenté Nietzsche, oui. Enfin, si je m'appuie sur. Et vous dites pourquoi Nietzsche? Vous pensez à quoi?
Toute interprétation, c'est une perspective.
Ah, oui, tout à fait, oui. Voilà, donc c'est-à-dire. Oui, tout à fait, vous avez le même mouvement chez lui, où il va critiquer ce qui nous empêche de nous penser comme sujet unique et irremplaçable, vivant, pris dans la vie, la volonté de puissance, etc. Et comment. Donc, pourquoi? Parce que donc, chez Nietzsche, ça fait peur, en fait. Donc, enfin, chez lui, donc, le principe de départ, c'est nous vivons dans une vie, nous sommes des vivants, nous sommes pris et emportés par une vie qui est par définition imprévisible. Souvenez-vous, c'est la traduction de. Enfin, je vous en ai proposé une traduction tantôt, ça, il n'y a rien qui nous est dû, ça peut basculer à tout moment. La vie peut tout nous reprendre. Ça fait peur. Et du coup, comment les êtres humains que nous sommes se sont débrouillés pour essayer d'échapper à cette peur de l'imprévisibilité du monde? Eh bien, dans la tradition judéo-chrétienne, il va attaquer cette tradition-là avec du vitriol, donc il est terrible, mais n'empêche qu'il y a des choses qui doivent nous faire réfléchir, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Il va dire, les deux stratégies qu'on a mises en place pour essayer de se calmer, de se protéger de la peur et de se rassurer à bon compte, c'est tout simplement, eh bien, puisque la vie c'est du changement qui peut tout nous reprendre à tout moment, eh bien, c'est tout simplement donc deux stratégies pour essayer d'avoir des choses stables. Parce que ce qui est stable, c'est ce qui ne change pas, et ce qui ne change pas, c'est ce qui rassure. Et comment on fait concrètement? La première stratégie, c'est de croire qu'il y a de la vérité qui existe. Une fois que vous êtes persuadé qu'il y a de la vérité qui existe, ceux qui savent, alors eux, ils ont compris l'univers, et du coup, on peut tout prévoir. Ouf, on est sauvé. Et puis vous avez la, donc c'est toute la construction de la science. Et où on ne parvient plus à voir que ce que je viens juste de vous dire à l'instant, donc c'est vrai que Nietzsche joue avec ça, que dans le fond, la science ne fait que proposer des interprétations du monde. Hein, si vous avez fait un peu d'histoire des sciences, ben vous le voyez bien, que ce qu'on dit aujourd'hui, ça ne correspond pas à ce qu'on disait il y a 2 siècles, et que même au cours de ce siècle-ci, hein, maintenant ça va tellement vite en plus qu'on voit que ça change. Donc avant, il fallait plusieurs générations pour voir que le savoir changeait. Mais nous, on est les témoins de ça, évidemment.
Elle dit un comment, elle dit jamais un pourquoi.
Voilà, ben oui, c'est ça. Mais même au niveau du comment, de toute façon, ce sont encore des modèles qui ne sont encore que des interprétations, de toute façon. Mais ce qui importe, c'est surtout qu'on ne le voit pas. Qu'on soit persuadé que non, la science dit la vérité. Et si elle ne le dit pas aujourd'hui, elle le dira demain. Mais il y a de la vérité possible. Parce que si vous dites qu'il n'y a pas de vérité, c'est panique à bord. Hein.
Et ça, c'est compte avec le positivisme.
Le positivisme. Hein, ben, c'est cette confiance. Voilà, ben, compte, ce serait la figure par excellence que Nietzsche attaque.
Voilà.
Cette confiance dans la raison qui... Enfin bon, ça c'est la première stratégie. Et puis vous avez une deuxième stratégie qui nous concerne, encore plus hein, dans le monde chrétien, c'est ben, la morale judéo-chrétienne. Où on nous dit quoi ? Ben, on nous dit, il y a le bien, il y a le mal. Et regardez, Nietzsche a raison hein, de nous attaquer là-dessus. Qu'est-ce que le bien pour nous ? Eh ben, le bien pour nous, c'est tout ce qui est rassurant. L'amour, le pardon, la miséricorde, la gentillesse, se faire humble, enfin toutes les choses qui sont rassurantes, quoi. Si tout le monde pouvait faire ça, ce serait génial. Et qu'est-ce qu'on dit être le mal ? Ben, tout ce qui fait peur. Et donc, derrière la morale chrétienne, dit Nietzsche, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Il y a le fait que vous ne supportez pas le monde comme il est. Vous n'arrivez pas à aimer la vie comme elle est. Une vie qui peut tout vous reprendre, effectivement. Et donc il a des phrases terribles, hein, dans le Gai Savoir notamment, il va dire ceci, enfin moi c'est des choses qui m'ont fait réfléchir, il dit en fait, hein, quand vous regardez quelle est votre morale à vous les chrétiens, hein, ben, c'est une morale du confort.
Oui mais Peggy dit la même chose.
Ah ben oui, mais je ne dis pas que
les braves
seul,
gens,
hein.
Les braves gens ne mouillent pas à la grâce.
Voilà.
Donc moi je préfère la version Peggy à la version de Nietzsche.
Ah oui, bon, on peut le dire comme vous voilà, voulez, mais enfin toujours est-il qu'ils posent...
Ils disent la même chose, sauf que en fait ce que Nietzsche attaque, c'est une fausse morale chrétienne.
Ah oui, mais bien sûr.
Il a raison de la débusquer.
Bien sûr.
En fait, il la décrit comme étant une dérive très négative de cette morale qui a servi l'homme et sa conscience. Alors que la morale, c'est au contraire. Le dernier sanctuaire, c'est la conscience qui s'exprime. C'est saint Thomas d'Aquin. Personne ne peut dicter à ta conscience
de
venir te violer à cet endroit-là.
Voilà,
tu as pour obligation d'éclairer ta conscience, de chercher à l'éclairer.
Voilà.
Jamais personne ne peut venir te dicter à cet endroit-là ce que tu dois faire.
Mais donc, en attendant, donc vous comprenez, donc si vous essayez de vous rattacher à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, pour essayer de faire des liens, parce que donc on ne s'éloigne pas tellement du sujet finalement, hein, donc ce que Nietzsche critique ici, c'est quoi par conséquent ? La science qui saurait la vérité. La morale, quel que soit le système moral d'ailleurs, la morale qui pourrait dire avec vérité ce qu'est le bien et le mal. Bien, qu'est-ce que c'est ça en fait ? C'est des figures de la toute-puissance. C'est ça qui est visé en fait ici. Hein. D'accord, mais sous une forme ici particulière, donc au niveau de la culture. Donc on doit savoir, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, comme si nous étions suffisamment tout-puissants pour savoir. Et c'est vrai qu'une fois que donc, Nietzsche a critiqué ce genre de choses, qu'est-ce qu'il met à la place ? Et là on retrouve donc ce que vous avez évoqué, mais il le dit lui évidemment dans son vocabulaire à lui, hein, il va dire, une fois que vous avez compris que tout cela dans le fond ce sont des constructions pour nous rassurer à bon compte, et donc c'est une fuite. Finalement, c'est une manière de fuir hein, le monde, de témoigner qu'on ne le supporte pas, c'est le ressentiment, toutes ces choses-là hein, que vous connaissez sans doute. Donc il va dire, mais voilà, quand on a dénoncé les illusions qui sont de ce côté-là, qui relèvent de la toute-puissance finalement, eh bien, qu'est-ce que l'on découvre ? Et c'est là que vous retrouvez la finitude, c'est une façon d'en parler, hein, donc Nietzsche le fera à sa manière à lui, ça rejoint ce que vous avez dit avec saint Thomas d'Aquin, bien que ce serait quand même audacieux de rapprocher Nietzsche et saint Thomas d'Aquin, mais enfin...
Moi, j'ai peur de rien.
Mais
je
ne
connais rien, donc j'ai peur de rien.
mais parfois, c'est une force. Donc, il va dire ceci, mais dans le fond, qu'est-ce que nous sommes en tant qu'êtres humains quand vous vous êtes libérés de tout ce qui fait, de tout ce qui rassure, à bon compte ? Donc, ben, évidemment, c'est la finitude dont il va témoigner de la façon suivante. D'abord, c'est de pouvoir... Et c'est là que vient le perspectivisme. C'est d'abord d'accepter que chacun d'entre nous... Et c'est d'avoir le courage de cela. Nous n'avons qu'une perspective sur le monde. Donc c'est le perspectivisme, c'est-à-dire que ce que chacun d'entre nous, nous savons du monde, ce que chacun d'entre nous, nous savons du christianisme, par exemple, de l'expérience religieuse, enfin, prenez n'importe quoi, peu importe ici, c'est pas ça l'enjeu, ben, ce que vous en savez, c'est juste votre point de vue. Pourquoi ? Parce que, ben, je vous l'expliquais tout à l'heure avec d'autres mots, parce qu'on ne vit jamais que sa vie. Et donc je peux bien en témoigner maintenant. Mais même quand j'en témoigne, ce que les autres en comprennent de ce que je dis, ce ne sera jamais que d'après ce qu'eux ont vécu, ils vont s'opposer, pas être d'accord, enfin, ils vont réagir en fonction de leur expérience. Eh bien, ce n'est pas un problème. Pourquoi ce serait un problème ? Plus vous assumez votre finitude, c'est-à-dire ici, plus vous assumez le perspectivisme auquel nous sommes contraints. Je ne peux pas penser à la place des autres, je ne peux pas m'imposer, je peux proposer, ça oui. Mais ce qu'en feront les autres, ça ne m'appartient déjà plus de toute façon. Donc plus vous êtes à l'aise avec ça, et plus vous serez heureux. La deuxième chose, c'est au niveau moral. Ça, c'est intéressant, je trouve, comme idée. Et ça déplace un peu les choses. Et en tant que chrétien, c'est de se demander comment on peut intégrer ça. Il va dire, qu'est-ce qui est bien ? Parce qu'il y a quand même, dans la vie, l'impression qu'il y a des choses... Enfin, nous avons tous l'impression qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises, malgré tout. Hein. On peut bien dire que c'est pour nous rassurer et rejeter les morales du confort, hein, qui sont des déviations, finalement. Hein, des... Mais en attendant, ben, moi qui vis, ben, je fais l'expérience du bien du mal. Qu'est-ce qui est bien pour nous ? Eh bien, ce qu'il va dire, pour ne pas retomber dans les morales du confort qu'il critique, il va dire ceci. Ce qui est bien, c'est finalement ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. S'il est vrai que ce que vous êtes, c'est génial, si vous aimez ce que vous êtes, eh bien, tout ce qui a fait que vous êtes ce que vous êtes, c'est positif. C'est le bien pour vous. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ben, concrètement, ça veut dire donc toutes les expériences heureuses que j'ai vécues dans ma vie, mais ça veut dire aussi toutes les blessures. Vous seriez différent si vous n'aviez pas ces blessures. Alors, si vous aimez ce que vous êtes, si ce que vous êtes vaut la peine d'être vécu, vous avez de la valeur, si vous voulez, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, hein. Mais si de fait c'est le cas, alors tout ce qui y a contribué, eh bien, pour vous, c'est bien. Et qu'est-ce qui est mal, du coup ? Eh bien, c'est ce qui vous tue. Et ça veut dire quoi, concrètement ? Ben, les blessures, les souffrances qui sont telles que ça m'empêche de vivre, ben, ça, pour moi, ça restera quelque chose qui est une blessure, donc on ne va pas me dire que c'est bien, ça reste pour moi quelque chose de mal. Mais c'est aussi, dit Nietzsche, et ça, c'est assez bien vu, les jouissances, donc les plaisirs, si vous voulez, qui sont tellement excessifs que c'est vrai que ça pourrait, il est vrai que ça pourrait me détruire aussi. Donc il n'y a pas que, si vous voulez, la douleur comme telle. Il y a des plaisirs aussi qui nous détruisent. Et pour chacun, le curseur est à des places différentes, évidemment. C'est là qu'on retrouve la finitude. On est tous différents, on n'est pas les mêmes, etc. On a nos limites là où on les a. Mais il n'empêche que si vous connaissez vos limites, vous savez qu'il y a des plaisirs. Si je me jette là-dedans, ça va me brûler les ailes et je vais me détruire. Il y a des souffrances qui seront tellement excessives que là, je ne rends plus compte de rien. Mais voilà, ça c'est le mal pour vous. Pour votre voisin, c'est différent, mais c'est normal. Mais on a chacun notre limite, de toute façon, finitude. Et donc, vous voyez, il a une manière de déjouer ce que nous, nous entendons, enfin, ce que nous, dans le langage ordinaire, ce que nous appelons le bien, le mal, hein, le bien, c'est ce qui est gentil, le mal, c'est ce qui est méchant, etc., en disant, non, c'est pas si simple. Ce qui est bien, c'est ce qui vous fait vivre. Même les blessures, même les souffrances qui font que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. Et vous voyez qu'il y a un message extraordinaire derrière, hein. Dans le fond, enfin, je trouve qu'il y a des résonances avec des choses qu'on pourrait entendre dans le monde chrétien, parce qu'il part du principe que c'est génial ce que vous êtes. Ce que nous sommes tous, hein. Donc je dis vous, mais c'est moi aussi, c'est tout le monde, quoi. Donc il faut l'aimer, parce que c'est aimable. Et du coup, ben, alors acceptez ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, ben, vous êtes parti, quoi. Donc c'est une toute autre vision, évidemment, hein. Même dans les choses qu'on pourrait critiquer au nom d'une morale bien-pensante, ben non, vous avez le droit de l'être, enfin bon, voilà, etc., etc. Donc c'est là que vous avez la finitude, par conséquent. Enfin bon, tout ça pour dire, dans le champ que j'ai essayé d'ouvrir ici tout à l'heure, donc vous voyez bien, il y a toute cette dynamique, hein, c'était de là qu'on était parti pour rester dans la question de la spiritualité, enfin, de s'ouvrir à la spiritualité. Ce que je vous ai raconté à travers des anecdotes et de l'empirique, c'est en fait un mouvement auquel on s'ouvre ici, qui est le mouvement même de la spiritualité. C'est-à-dire ce mouvement par lequel on essaye de se libérer de ce qui nous retient et nous empêche de vivre pour essayer de renaître à ce qui nous fait vivre. Et une fois que vous avez compris ça, bah alors vous pouvez le décliner à tous les niveaux. Il y a plusieurs niveaux de lecture, évidemment. Hein. Il n'y a pas que l'empirique ou le psychologique que j'ai utilisé ici, mais ça peut se hisser jusqu'au niveau spirituel, évidemment. Mais là, c'est à chacun de le faire à ce moment-là. Ça va pour ceci, enfin, vous voyez plus ou moins comment on peut faire le lien.
Il y a des textes dans l'écriture hein, qui disent ça.
Ben, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Ben, donc on pourrait maintenant refaire, mais enfin moi c'est pas ce qu'on m'avait demandé. Mais on pourrait refaire ça maintenant avec le texte et puis on essaye de voir dans
là,
les textes
en
comment.
En entendant en parler, moi j'ai retrouvé des références.
Vous ben tout à fait. Oui. Alors ceci étant dit, donc il y a quelques questions quand même auxquelles je vais essayer de répondre. Enfin on a le temps, je ne sais pas jusqu'à quelle heure moi.
Normalement ça termine à 18h.
Et il est quelle heure? Ah ben ouf, ben voilà. Je suis coupé dans son élan. Non, mais c'est pas grave, mais non, mais on se voit demain, il n'y a pas de souci. Hein. Non, ben après, je vais plutôt ce qu'on va faire alors hein, pour respecter les horaires. Je vais reprendre les questions ici, voir comment je peux les intégrer demain. Pour, comme ça, en même temps, j'y réponds, on avance, et voilà, donc on peut faire ça, comme ça, personne ne sera volé de rien. Et on respecte le...
Voilà, merci beaucoup, en tout cas.
Merci.
Merci. On a tous entendu qu'on était invités au resto par Jean-Michel. Voilà, on se retrouve à 9h30 demain. Bonne soirée à chacun.
Merci.
Votre hôtel, vous savez où il est? Non, sans doute.
Non, je ne sais pas encore. Non, mais.
Non, mais il faut...
C'est Libby.